Savez-vous quel est le premier symbole de la foi chrétienne? Premier symbole de la foi chrétienne dans l'histoire. Poisson. D'accord. Alors en fait, d'après mes recherches, il y en a plusieurs. Sur les murs et les plafonds des catacombes de Rome, des cimetières souterrains, les premiers chrétiens, persécutés à cause de leur foi, d'après ce que j'ai pu comprendre, dessinaient soit des paons, symbole d'immortalité apparemment, soit des colombes, soit des poissons, dont seuls quelques initiés pouvaient comprendre le sens. Alors en fait, vous le savez peut-être, mais en grec, le mot poisson se dit ictus, un nom qui a d'ailleurs donné lieu à un jeu auquel je n'ai jamais joué. Vous connaissez? C'est super, selon précis. Okay, on joue tous à ictus ce soir. Ouais. Ictus, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais ce mot forme en fait un acrostiche de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis. Grâce à cette présentation, l'association des premières lettres de ces cinq mots forme le mot ictus. Donc le I en fait veut dire Jésus, CH Christos Christ, Tétéos Dieu, Uhuios Fils, S Soter Sauveur. Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Autrement dit, si vous, comme moi, vous avez un poisson métallique ou multicolore au dos de votre voiture, voilà le message que vous lancez à tous ceux que vous, qui vous suivent sur l'autoroute. C'est que vous croyez que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu et le Sauveur. Et ces symboles furent finalement remplacés, encore une fois d'après mes recherches, au VIe siècle, par quel symbole? Une croix. Par la croix sur laquelle Jésus fut crucifié, une croix que vous portez peut-être autour de votre cou. Ce matin, je me rappelle que après mon baptême, on m'a offert une croix, une belle croix, une croix, la croix. Pourquoi avoir choisi un symbole si peu glorieux, une croix, la croix? Après tout, la croix ne représente-t-elle pas l'échec du plan de Dieu? N'est-elle pas une erreur de sa part? Imaginez, vous êtes journaliste et vous avez la possibilité de voyager dans le temps, un peu comme dans Retour vers le futur grâce à l'invention de notre ami du doc. Et vous avez la possibilité de voyager au premier siècle de notre ère pour enquêter sur la mort de Jésus. Direction Jérusalem, donc vous programmez Jérusalem, date, on va dire, je ne sais pas moi, premier siècle, après Jésus, la première moitié du premier siècle, quelques heures seulement après la crucifixion. Et là, vous croisez un officier romain qui descend du mont Golgotha. Le mont Golgotha, c'est le mont sur lequel Jésus a été crucifié. Et vous l'interrogez, mais pourquoi cet homme a-t-il été crucifié? Et l'officier romain vous répond, erreur politique. Vous posez la même question à un responsable religieux juif de l'époque qui, lui, vous réplique, blasphème. Cet homme a blasphémé, il a prétendu être Dieu, et selon notre loi, les hommes qui prétendent être Dieu sont mis à mort en étant crucifiés. Et quelques semaines plus tard, sur une route menant à un village appelé Emmaüs, vous rencontrez Jésus, qui enfonce le clou de votre enquête. Et vous l'entendez dire à deux hommes sur la route d'Emmaüs, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La mort de Jésus sur une croix. Une erreur? L'échec du plan de Dieu? Erreur politique? Pas du tout. La mort de Jésus sur la croix, suivie de sa résurrection et de son ascension, est en réalité, et j'espère que vous êtes en train de le comprendre, l'accomplissement ultime du plan de salut de Dieu pour le monde, pour vous si vous avez placé votre confiance en lui. C'est le remède parfait qu'il a prévu pour nous guérir de la maladie du péché. Et c'est un peu ce que je vous propose de découvrir dans cette troisième strophe du quatrième chant du serviteur. Une strophe dans laquelle le prophète va comparer ce que la Bible appelle le péché à une maladie. Une maladie. Une strophe dans laquelle Ésaïe, après avoir résumé son poème, vous vous rappelez, des versets 13 à 15 au chapitre 52, il va dire que le serviteur va être élevé parce qu'il va être défiguré, parce qu'il va être sacrifié, une manière de résumer un petit peu ce qu'il va dire. Ensuite, il va décrire la naissance, vous vous rappelez, le lot quotidien du serviteur, en disant que le peuple d'Israël a fait preuve d'incrédulité. Pourquoi ? Parce que le serviteur était apparemment insignifiant et qu'il a par conséquent été inconsidéré. Mais que c'est sa puissance, en fait, qui peut, dans la souveraineté de Dieu, s'accomplir dans la faiblesse. Ce qui s'est passé dans la vie du serviteur, c'est ce qui peut se passer dans votre vie. Et maintenant, il va nous expliquer le sens des souffrances du serviteur. Il va nous donner le sens théologique des souffrances du serviteur. Et nous allons gravir et atteindre le sommet du mont Everest ce matin. Vous êtes prêts ? Ésaïe chapitre 53, les versets 4 à 6, que je vous propose de lire ensemble. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Question d'observation. Vous êtes habitué maintenant. Est-ce que vous avez remarqué l'insistance d'Ésaïe sur les pronoms personnels ? Regardez encore les versets 4, 5 et 6 ensemble. Il et nous. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. L'insistance sur les pronoms personnels, mais aussi sur les adjectifs possessif, toujours au même verset. Mais il était transpercé à cause de nos fautes, de nos crimes, pardon, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous avez remarqué l'insistance d'Ésaïe, en fait, sur une alternance entre les « nous » et le « il » C'est zarbi, non ? Pourquoi Ésaïe insiste-t-il tant sur ses pronoms personnels et ces adjectifs possessifs, le passage en est plein à craquer. Je pense qu'il est en train de nous révéler qu'il y a eu, entre le serviteur et nous, une substitution, un échange, une sorte de transfert. Mais comment ce transfert, cette substitution, cet échange a-t-il eu lieu ? Eh bien, c'est ce qu'il nous explique dans ces versets. C'est ce que j'aimerais voir avec vous en deux temps. Premièrement, le serviteur va porter nos souffrances, c'est le verset 4. Et deuxièmement, le serviteur va être percé pour nos offenses, les versets 5 et 6. Premièrement, le serviteur va porter nos souffrances. Regardez encore avec moi le verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Dans ce passage, Ésaïe est en train de nous dire que le serviteur va nous guérir par ses meurtrissures. C'est un peu l'idée principale que j'aimerais que nous retenions. Comment ? En portant nos souffrances et en étant percé pour nos offenses. Et dans le verset 4, Ésaïe, qui s'identifie au peuple d'Israël, va confesser ce qu'il pensait du sort réservé au serviteur avant de comprendre le sens de ses souffrances. Regardez la deuxième partie du verset 4 avec moi, verset 4b. « Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu » et humilié. Autrement dit, et je paraphrase, si le serviteur a souffert, mais finalement, si le serviteur a souffert, c'est qu'il a dû le mériter. Ses souffrances doivent être la conséquence de ses propres péchés, non ? Et c'est pour ça que Dieu l'a frappé, parce qu'il a péché. C'est normal, Dieu frappe ceux qui pêchent, Dieu est juste. C'est un peu la compréhension d'Ésaïe, avant de comprendre le sens de ses souffrances. Et d'un côté, Ésaïe a raison, non ? Il a raison, le serviteur a bel et bien été frappé par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de ses souffrances. C'est lui qui l'a frappé. Mais d'un autre côté, Ésaïe et le peuple d'Israël commettent une erreur de jugement absolument dramatique. Est-ce que vous la comprenez, cette erreur ? Le serviteur ne méritait pas de souffrir. Ses souffrances ne sont pas du tout les siennes. Regardez encore le verset 4. Ses souffrances sont les nôtres. Absolument. Il a porté nos souffrances. Regardez encore l'insistance d'Ésaïe sur les adjectifs possessifs. Certes, vos versions ont peut-être pourtant, ce qui marque beaucoup mieux l'effet de surprise. Mais quelle surprise ! Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs, de nos douleurs, qu'il s'est chargé. Vous voyez comment dans ce verset, Ésaïe est en train de dire que le serviteur a porté nos souffrances. Mais pourquoi ces souffrances sont-elles les nôtres ? Eh bien, la réponse se trouve au verset suivant. Le serviteur a été percé pour nos offenses. Si le serviteur a porté nos souffrances, c'est parce qu'il a été percé pour nos offenses. La conséquence, finalement, du péché. Regardez avec moi les versets 5 et 6. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous attirer votre attention sur le fait que nous sommes non seulement au cœur du chant du serviteur, non seulement au cœur du livre d'Ésaïe, mais aussi au cœur de l'Évangile. Nous sommes en train de gravir, en fait, le mont Everest, mais qui n'est finalement qu'une préfiguration, une annonce d'un mont un peu moins haut, c'est vrai, mais tout aussi beau, le mont Golgotha. Le mont Everest que nous sommes en train de gravir n'est qu'une préfiguration d'un mont un peu moins haut, c'est vrai, dans le monde, mais beaucoup plus beau, le mont Golgotha, où Jésus a véritablement, dans l'histoire et dans le temps, où il a été crucifié pour nos péchés, où il a été percé pour nos offenses. Les souffrances du serviteur sont en réalité mais les conséquences de nos offenses, de mes offenses. Il ne méritait pas du tout de souffrir, pas du tout. Il n'a pas souffert à cause de lui-même, mais à cause de nous, à cause de moi. Vous voyez l'idée de transfert dans ces versets, hein, qui est comparable à celui qui s'opère un peu dans le sacrifice que vous avez étudié dans le Lévitique 16. Vous vous rappelez comment les péchés du peuple étaient transférés sur quoi ? Sur un animal qui était envoyé dans le désert, d'où le nom de bouc émissaire. La même idée de transfert est repérable dans ce verset. Les péchés, nos péchés ont été transférés, ce que nous allons voir, non pas sur un animal, sur une personne, qu'il a volontairement porté sur lui. Cette personne n'est autre que le Seigneur Jésus. Regardez comment le sens de ses souffrances pour le serviteur devient de plus en plus clair. C'est un peu comme si la lumière s'allumait tout d'un coup dans cette salle et qu'on y voyait tout. C'est un peu ce qui se passe dans ces versets. La lumière s'allume dans l'esprit d'Ésaïe en trois étapes. Et là, ça fait l'objet d'un pauvre point. Merci. Première étape, verset 3, le serviteur a souffert. Très bien, ok. Sauf que Ésaïe pense que le serviteur a souffert à cause de lui-même, mais la lumière s'allume. Verset 4, en fait, ses souffrances ne sont pas du tout les siennes, Ésaïe comprend, mais les nôtres. Le serviteur n'a pas souffert parce qu'il le méritait, il n'a pas souffert à cause de ses péchés, il était sans péché, mais à cause de nos péchés. Et c'est ce qui est dit au verset 5. Il a été transpercé à cause, littéralement, c'est la préposition mine, à partir de... Il a été transporté à partir de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Une formule qui revient d'ailleurs au verset 6. Hein, regardez, littéralement, l'Éternel a fait en sorte que quelque chose l'atteigne. J'ai cette image en tête, imaginez, on fait parfois cette blague. On fait passer quelqu'un sous une porte et on met sur la porte une pile de livres. Vous connaissez cette blague ? Ne la faites pas, hein. Et au moment où la personne passe, vous ouvrez la porte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La pile de livres écrase la personne. C'est une bonne blague, apparemment. Ne la faites pas, je vous le décourage. Est-ce que vous comprenez que c'est un peu ce qui s'est passé sur la croix ? Où Dieu le Père a fait retomber sur son Fils qui a volontairement accepté les œuvres complètes d'Émile Zola. Par exemple, dans la collection de la Pléiade, il a pris en pleine figure sur lui, littéralement, il a porté sur lui le poids, non pas de quelques livres, mais le poids de mes péchés, de vos péchés, de nos péchés. Mais ce n'est pas tout. Dernière étape de la compréhension d'Ésaïe, la lumière s'allume. Les souffrances du serviteur sont le châtiment de notre paix. C'est un peu le but de son sacrifice, de notre paix avec Dieu. Le prix payé pour le pardon de nos offenses. Et c'est ce que dit, en fait, la dernière partie du verset 5. Les souffrances du serviteur sont le châtiment de notre paix. Il a payé le prix de notre paix avec Dieu. Il a payé le prix que méritaient nos péchés. Le prix de notre pardon avec Dieu. Il a porté sur lui le poids de nos péchés. Il a été percé pour nos offenses. Nos offenses, c'est-à-dire, regardez le verset 6, qui explique de manière admirable la nature du péché dans la Bible. Nos offenses, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à errer comme des brebis. C'est ce que dit le texte, hein, regardez avec moi, verset 6. Hein. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est la manière dont Ésaïe explique finalement la nature de nos offenses, de nos crimes, de la violation de la loi de Dieu, du rejet de l'autorité de Dieu dans nos vies, notre indépendance, notre volonté d'autonomie morale vis-à-vis de Dieu, qui consiste à décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, à être les propres dieux de notre propre vie finalement. Ce qui se passe dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? À suivre sa propre voie, à rejeter l'autorité de Dieu dans notre vie. Et ça, mes amis, c'est grave, c'est très grave. Vouloir être Dieu à la place de Dieu, c'est l'essence du péché. C'est grave et Dieu se doit de le punir justement si c'est un Dieu juste. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà donc en quoi consiste la maladie dont nous souffrons tous ce matin. Moi le premier, c'est la mauvaise nouvelle. Nous sommes malades. Nous sommes tous malades d'une maladie incurable. Voilà donc la maladie dont nous souffrons et dont Dieu seul peut nous guérir par les meurtrissures de son serviteur. Guéri par les meurtrissures de son serviteur, qui a porté nos souffrances, les conséquences de notre péché finalement, et qui a été percé pour nos offenses, les causes du péché. Vous comprenez? Le serviteur a porté nos souffrances, les conséquences du péché, et il a été percé pour nos offenses, les causes du péché. Est-ce que vous connaissez l'histoire du frère Maximilien Kolb? Un frère franciscain dont l'histoire n'est peut-être pas très connue dans le monde francophone, un peu plus connue dans le monde anglophone, mais le 17 juillet 1941, vous connaissez cette histoire? Non? Le 17 juillet 1941, une histoire vraie, hein, cet homme est arrêté par la Gestapo pour être transféré dans le camp tristement célèbre d'Auschwitz. Et un jour, un prisonnier disparaît dans le bloc 14, le bloc où se trouve le frère franciscain. Maximilien Kolb. Alors les nazis vont sélectionner 10 hommes pour les mettre en quarantaine, pour punir finalement cet acte de rébellion. Et parmi eux, parmi les 10 hommes malheureusement sélectionnés, il y a un père de famille. Ça aurait pu être moi, je ne sais pas. Qui va supplier les Allemands de ne pas le prendre. Et c'est alors que, parmi la foule, il y a un homme qui s'avance et qui dit, écoutez, je me porte volontaire pour remplacer cet homme. Les nazis se concertent et ils acceptent l'échange, la substitution, le transfert. Le frère Kolb est alors emmené avec 10 autres prisonniers dans un bunker souterrain où il sera exécuté. Alors je sais que, comment dire, aucun exemple ne pourra vraiment illustrer ce que Jésus a fait, mais l'histoire offre parfois des événements comme celui-là qui peuvent nous aider à mesurer la grandeur du sacrifice de serviteur. Est-ce que vous mesurez la grandeur du sacrifice de serviteur? Est-ce que vous en saisissez la grandeur? Est-ce que c'est non seulement une vérité dans votre vie, mais dans votre cœur? Autre illustration que vous avez peut-être vue plusieurs fois, mais je pense qu'elle peut vraiment nous aider à comprendre ce qu'a fait le serviteur. Imaginez que ce livre, qui n'est la Bible, mais c'est un symbole, que ce livre, en fait, que cette main, par exemple, me représente, d'accord? et que l'espace qui nous environne représente Dieu finalement, un Dieu omniscient, omniprésent et infini. D'accord ? Imaginez maintenant que ce livre, la Bible, n'y voyez aucune allusion, je mette ma Bible sur ma main. Et le problème de cet objet, en fait, il est double. Premièrement, il constitue un poids de culpabilité et de condamnation objective devant Dieu. Et le deuxième problème, c'est qu'il constitue une barrière relationnelle entre moi et Dieu. Vous voyez, il y a véritablement une séparation, quelque chose qui m'empêche d'être en relation, en contact avec Dieu. Cet objet représente ce que la Bible appelle le péché. Imaginez maintenant que cette main, qui est libre de tout objet, hein, qui est en relation harmonieuse avec Dieu, imaginez que cette main représente le Seigneur Jésus, le serviteur. Jésus était pleinement homme, il avait une nature divine à 100%, nature humaine 100%, il était pleinement Dieu. La Bible dit qu'il a certes été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a jamais péché. En fait, il a vécu la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu vivre. Jamais. C'était l'homme parfait, le Dieu parfait, en relation éternelle avec Dieu le Père. Ce qui s'est passé à la croix, en fait, et c'est hallucinant, c'est que ce qui me séparait de Dieu, le poids de mes péchés, la culpabilité objective devant Dieu, cette barrière relationnelle, est tombée sur lui, alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était sans péché, alors qu'il était parfait. Est-ce que vous comprenez la conséquence de cette substitution ? C'est qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être en relation avec Dieu. Je suis libéré de cette culpabilité objective devant Dieu. Je suis pardonné. Pourquoi ? Parce que le serviteur a pris sur lui le poids de ma condamnation. Il a été puni à ma place. Et il me permet d'entrer en relation avec Dieu. Plus rien ne me sépare de lui. C'est pas la meilleure nouvelle du monde, ça ? C'est pas la meilleure nouvelle du monde ? Le serviteur a été percé pour nos péchés. Il nous permet d'être guéris, mais par ses meurtrissures. Il a porté nos souffrances. Il a été percé pour nos offenses. Nous pouvons être guéris par ses meurtrissures, sauvés par sa mort qui nous donne la vie. Alors comment appliquer ces versets dans nos vies? De la même manière, en fait, que les souffrances du serviteur deviennent de plus en plus claires dans ces versets, et j'espère que vous l'avez compris, hein, comment la lumière s'allume. Eh bien, je vous pose cette question, et encore une fois, si je vous pose cette question, c'est que me la pose à moi-même. Est-ce que les souffrances du serviteur, le sens des souffrances du serviteur, deviennent de plus en plus clair pour vous ce matin, que vous soyez croyant depuis des années, et même si vous ne croyez pas, est-ce que vous comprenez ce que Jésus a fait dans ces versets? Le sens des souffrances du serviteur est-il de plus en plus clair pour vous? Comme Ésaïe, est-ce que vous avez conscience que c'est moi qui méritais de souffrir sur cette croix et que c'est le serviteur qui a souffert à ma place pour que je sois guéri par ses meurtrissures? Si nous avons conscience de cette substitution, de ce transfert, de cet échange qui a eu lieu entre nous et le serviteur et de la nécessité d'être guéri parce que nous sommes malades, si vous en avez conscience, j'aimerais nous encourager à faire deux choses. La première, c'est confesser le serviteur, et la deuxième, c'est suivre le serviteur. La première chose, donc, confesser le serviteur. J'aimerais que nous fassions un exercice grammatical extrêmement difficile, mais je vais vous aider. Enfin, Dieu va nous aider surtout. J'aimerais que nous relisions les versets 4 à 6 comme une confession de foi. Si vous êtes croyant depuis des années, sentez-vous libre de la faire dans votre cœur. Si vous n'êtes pas croyant, si vous ne savez pas où vous en êtes avec Dieu au bout de quelques jours passés avec nous, si vous pensez que nous sommes complètement fous, sentez-vous libre de ne pas la faire. Simplement, je vous encourage à lire, ou plutôt à relire ces versets comme une confession de foi, et c'est peut-être votre première confession de foi de toute votre vie. Ce serait extraordinaire. Mais Dieu dit que si nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Vous pouvez vous approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose de faire si vous le voulez bien. En remplaçant les adjectifs possessifs et les pronoms personnels de la première personne du pluriel par ceux de la première personne du singulier. Merci, vous avez tout compris. On y va ? Répétons ces versets. Je vous encourage à les répéter dans le secret de vos cœurs, silencieusement, et à vous laisser peut-être émouvoir, éblouir par leur sens, et à vous les approprier par la foi, peut-être pour la première fois, peut-être pour la millième fois, pour renouveler votre confiance dans le serviteur. Certes, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, je l'ai considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. J'étais errant comme une brebis. Je suivais ma propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui ma faute. Si vous avez confessé votre foi dans le serviteur, pour la première ou pour la dixième fois de votre vie, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir l'assurance absolue d'être pardonné de tous vos péchés, passés, présents et à venir. Vous pouvez avoir l'assurance d'être sauvé, guéri, en paix, réconcilié, en règle avec Dieu. Jésus a porté vos souffrances, il a été percé pour vos offenses, il a tout accompli une bonne fois pour toutes, pour que vous soyez définitivement guéri par ses meurtrissures. Vous connaissez Martin Luther, ceux qui ont assisté à l'atelier sur la dépression ont entendu parler de lui. Un jour, à un moine désespéré à cause de son péché, Martin Luther était moine avant de devenir, enfin de se convertir au christianisme. Voici ce qu'il a écrit à ce moine désespéré à cause de son péché. C'est magnifique. Je peux vous envoyer la citation si vous le voulez. Apprends à connaître Jésus-Christ. Et lui crucifié. Apprends à lui chanter et à lui dire, « Seigneur Jésus, tu es ma justice, je suis ton péché. Tu as pris sur toi ce qui était à moi, et tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. » C'est beau, non ? C'est magnifique, je peux vous envoyer la citation si vous voulez pour vous l'approprier. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, c'est-à-dire péché. Et afin que je devienne ce que je n'étais pas, c'est-à-dire justifié, justice. Confessez le serviteur. Deuxième et dernière chose, suivre le serviteur. Confessez le serviteur, c'est bien. Suivre le serviteur, c'est mieux. Est-ce que vous êtes prêt à aller encore plus loin ce matin et dans votre vie, à suivre le serviteur dans un monde, une société, un pays dont les valeurs ne sont pas vraiment celles du serviteur, n'est-ce pas ? Surtout en ces jours. Je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards, l'un des théologiens les plus éminents du 18e siècle, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle Christian Charity. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français, la charité chrétienne. Et dans ce livre, il estime que la forme de l'œuvre rédemptrice de Christ, en fait, devrait modeler notre façon de vivre. Autrement dit, ce que Jésus a fait à notre place sur la croix devrait déterminer la façon dont nous vivons notre vie en tant que chrétien, en tant que GBUcien. C'est ce qu'il appelle les règles de l'Évangile. The rules of the gospel. Je ne sais pas si vous avez un accent comme ça à l'époque. Mais selon lui, la première règle d'évangile, la première implication pratique de la substitution pénale, à votre avis, c'est quoi ? Alors, une idée ? Peut-être pas. Pour lui, c'est le pardon. Le pardon de ceux qui nous ont offensés. L'implication pratique, la première, de la substitution pénale, de ce que Jésus a fait à notre place, c'est le pardon. Vous avez suivi les débats concernant le mariage pour tous. Enfin, je mets en des guillemets entre mariage pour tous, le mariage pour quelques-uns, finalement. Et dans le cadre d'échanges entre le pasteur de notre église à Lyon et les défenseurs, les ardents défenseurs du mariage pour tous, on lui a dit, je cite sur Twitter, qu'il était une tête de nœud, sympa, que son discours était immonde, honteux et malhonnête. Sympa. Que les gens devraient se tirer de son église qui crache sa moralité. Sympa. Qu'il doit se tenir éloigné des gosses car c'est plus sûr. Sympa. Et que les prêtres, plus les prêtres et les pasteurs sont jeunes aujourd'hui, plus ce sont des terroristes de la morale et de la haine. Véridique. Twitter. Voilà ce que mon pasteur a subi comme gentillesse, comme politesse de la part des ardents défenseurs de mariage pour tous. Ça donne envie de devenir pasteur, ça. Ça. Comment est-ce que vous aurez réagi à sa place? Comment réagissez-vous quand vous êtes méprisé, insulté ou offensé à cause, par exemple, de vos convictions éthiques concernant le mariage pour tous? Comment est-ce que vous aurez réagi à sa place? Est-ce que vous êtes prêt à réagir comme le serviteur a réagi? 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Ça doit parler à ceux qui préparent une étude pour aujourd'hui, pour demain, pardon. Lui, le serviteur, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Est-ce que vous comprenez les implications pratiques de la substitution pénale dans ces versets? Est-ce que vous êtes prêt à suivre le serviteur? Les traces de Christ qui a souffert et qui nous a laissé un exemple, c'est ce que dit Pierre, n'est-ce pas? C'est à ça que nous sommes appelés, que je suis appelé. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas rendre l'insulte, mais à vous en remettre justement à celui qui juge et à celui à qui appartient la justice finalement? À aimer vos ennemis comme le serviteur les a aimés? À prier pour ceux qui vous persécutent comme le serviteur a prié pour eux sur la croix? Père, pardonne-leur, a prié Jésus, vous vous rappelez? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous êtes prêts à les pardonner comme le serviteur vous a pardonné? Mes amis, quelles sont les personnes, chrétiennes ou non, que vous ne pouvez pas supporter? Peut-être au camp à Fond-la-Forme, peut-être dans vos familles, peut-être parmi vos amis, peut-être dans vos églises. Non, tout le monde s'aime dans les églises. Quelles sont les personnes que vous ne pouvez pas supporter, que vous avez vraiment du mal à aimer? Et que vous êtes pourtant, et que je suis pourtant appelé à aimer, peut-être à pardonner. Est-ce que vous devez vous réconcilier avec quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un? Si nous voulons vraiment suivre le serviteur, nous sommes appelés à nous réconcilier avec cette personne, à lui demander pardon s'il le faut, à la pardonner s'il le faut. Parce que c'est ce que le serviteur a fait pour nous. Suivre le serviteur. Paul, dans Éphésiens 4, 32, dira: « Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, faisons-nous grâce réciproquement comme Dieu nous a fait en Christ. » Au début du XXe siècle, Ernest Shackleton, est-ce que vous connaissez Ernest Shackleton? Je ne le connaissais pas avant de prendre connaissance de cette illustration, mais c'est l'un des plus grands explorateurs de l'Antarctique, figurez-vous. Voilà, je m'endormirai moins bête ce soir. Et apparemment, cet homme a passé une annonce dans le petit journal de Londres à son époque pour recruter des personnes pour cette expédition. Et voilà les termes dans lesquels il a passé son annonce. Je cite. Recherche, homme pour aventure dangereuse. Bas salaire, froid de canard. Long mois dans obscurité totale. Danger constant. Retour sain et sauf, incertain. Je ne sais pas si beaucoup de monde a répondu à cette annonce. Mais vous savez quoi? Je connais quelqu'un qui a passé à peu près la même annonce dans la Bible. C'est le serviteur. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a passé la même petite annonce dans l'un des livres les plus traduits au monde que vous avez entre vos mains aujourd'hui. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, est-ce que vous êtes prêt à suivre le serviteur, à répondre à cette annonce? J'aimerais que nous terminions ce moment en passant une minute de réflexion sur ce tableau que Julie Delacote m'a conseillé. Il s'agit du retable d'Isenheim, que je ne connaissais pas avant que Julie m'en parle. Julie a fait des histoires, des histoires. Oui, elle fait beaucoup d'histoires, Julien, je sais. Mais surtout des études d'histoire de l'art. Et c'est un ensemble de panneaux peints, en fait, qui inclut un panneau central que vous avez devant vos yeux, hein, qui est consacré à la crucifixion. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention là sur le corps du Christ que vous voyez en plein milieu, qui est peint de manière radicale, selon ce que j'ai lu, qui semble suffoqué, les bras tendus à l'extrême, vous voyez comment ses bras sont tendus, hein, les lèvres bleuies, on ne le voit peut-être pas très bien, les pieds distordus par les clous, encore une fois, ce que vous voyez peut-être pas très bien, et on distingue aussi les traces des stigmates, les traces de la flagellation par le buisson épineux planté dans sa chair. Prenons une minute, mes amis, une minute, simplement pour réfléchir à ce que nous avons lu en méditant sur le serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous guérit, qui peut nous guérir en tout cas, par ses meurtrissures, parce qu'il a porté nos souffrances, et qu'il a été percé pour nos offenses. Notre Dieu, notre Père, le sacrifice de ton Fils, le serviteur, n'est ni une erreur, ni un accident, mais l'accomplissement de ton plan pour le salut de quiconque croit, le remède parfait que tu as prévu pour nous guérir de la maladie du péché. Le Seigneur Jésus, en effet, porté nos souffrances, les conséquences du péché. Il a été percé pour nos offenses, les causes du péché. Il a souffert et il est mort à notre place pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures, pardonnés de nos péchés, sauvés par sa mort. Alors que nous le contemplons sur la croix, nous prions que tu nous aides par la puissance de ton esprit à fixer nos yeux sur lui tous les jours de notre vie, à le confesser et à suivre son exemple, en vivant les implications de sa mort à notre place, en pardonnant ceux qui nous offensent, en aimant ceux qui ne nous aiment pas, et en priant pour eux, parce que c'est ce que le serviteur lui-même a fait. C'est en son nom que nous prions pour sa gloire.